Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, ça y est, les salles vont rouvrir, les 450 films gardés au frais vont être bientôt relâchés, mais en attendant, eh bien, on vous parle encore de ce qui sort directement en VOD ou sur les plateformes. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors, pour toi Guillaume, ça va être encore de la castagne.
Eh ben oui, ça va être le dernier Mortal Kombat de Simon McCoy.
Et ce film nous donnera l'occasion de jouer au blind test de l'émission. J'ai décidé de vous proposer eh bien, 5 extraits d'adaptation de jeux au cinéma. Donc eh bien, il faudra évidemment découvrir les titres de ces films. Et toi Manu, alors autre chose?
Oui, c'est un film d'action aussi. Hein. C'est Sans aucun remords de Stefano Solima, d'après un roman de Tom Clancy.
Mais on va commencer cette émission avec le point sur les films qui sont attendus le 19 mai prochain, car c'est l'embouteillage.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Difficile de savoir hein, si les spectateurs répondront présents le 19 mai prochain quand les salles vont rouvrir. Alors ce qu'on sait déjà, c'est que les salles ne pourront pas être remplies à plus de 35% et que la séance du soir eh bien, est compromise au moins jusqu'au 9 juin. Alors c'est maintenant le casse-tête hein, qui commence pour les distributeurs et les exploitants qui doivent tomber d'accord pour sortir les films. Alors on le rappelle, 450 films sont restés sur le carreau pendant toute la période où les cinémas sont restés fermés. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien certains films dont l'élan a été coupé à cause de l'entrée en vigueur du second confinement eh bien vont ressortir. C'est le cas du grand vainqueur des derniers Césars, Adieu les cons. Sorti le 21 octobre, le dernier film jubilatoire d'Albert Dupontel a déjà conquis plus de 600 000 spectateurs dans le court laps de temps où il était à l'affiche.
Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile.
À ce point?
Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets.
Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste.
Quoi, on peut rien faire alors?
Ça peut prendre du temps.
Mais c'est-à-dire j'ai un souci de santé.
Si vous êtes pressé, on s'en sort plus.
Excusez ma grossièreté. Adieu les cons.
Autre film glorifié par une cérémonie des Oscars, celle-ci, hein, c'est Drunk, film de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen. Les distributeurs ont décidé de le relancer à nouveau. On trouvera aussi ADN de Mai Wen, son dernier long métrage est sorti la semaine de la fermeture, ce qui ne lui a laissé aucune chance. Pas sûr que son passage entre-temps en streaming sur une plateforme américaine ait joué en sa faveur. Hein. Les internautes ne se sont pas fait prier pour le voir tranquillement chez eux. Alors à voir hein, combien de spectateurs il va attirer cette fois-ci.
C'est ton grand-père qui faisait que on était une famille.
L'incinération, ça sera dans 5 jours.
Je reballage un avion demain pour la Grèce.
C'est une blague?
C'est lui qui faisait que, avec tout ce qui nous séparait, on était quand même une famille.
Vous voulez un cercueil en chêne?
100 euros, il est en carton.
Oh non, non, c'est pas un déménagement.
C'est
hein,
pour
non,
le brûler.
Ça m'aurait fait plaisir que tu nous appelles ces derniers jours. Allô, neige, comment ça va? Tu vois, des petites phrases comme ça, des pères, quoi. C'était comment l'enterrement de ton grand-père?
Une émotion indescriptible.
Oh, tu te fous de ma gueule.
Non.
Joseph César du meilleur film d'animation 2021 d'Aurel ou encore 30 jours max de Tarek Boudali qui a cumulé plus d'un million de spectateurs en 2 semaines d'exploitation eh bien, font aussi partie eh bien, des films qui reprennent le chemin des salles. On y inclut également Calamity, Une enfance de Martha Jane Canary, Sous les étoiles de Paris, Michel-Ange et Polly. Quant à Deux de Filippo Meneghetti, film racontant un amour lesbien entre deux femmes âgées, sorti en février 2020, il profite de son César mérité du meilleur premier film pour se faire une place. À partir de ce 19 mai, on va aussi trouver des nouveautés. Alors, il ne faut pas compter sur les poids lourds qui attendront quelques semaines avant de faire leur apparition. Il est évident que les gros films vont arriver quand la séance du soir sera de nouveau possible et la jauge étendue à 65%. Alors, pour ce 19 mai, il faudra compter sur Envole-moi, comédie dramatique de Christophe Baratier. C'est le réalisateur des choristes hein, qui met en scène Victor Belmondo, le petit-fils de Bébel. Emmanuel Béart, qu'on n'a plus vu depuis longtemps au cinéma, reconstruit sa vie dans L'Étreinte, premier film de Ludovic Bergerie.
Et vous, vous avez habité où ça avant d'aménager ?
À Nice. C'est mon mari qui était commissaire d'exposition là-bas.
Il est où maintenant ?
Il est nulle part. Il est mort.
Ce nouveau départ des salles de cinéma en sous-régime sera l'occasion pour les distributeurs de sortir eh bien, des premiers longs-métrages. C'est le cas de Slalom, film de Charlène Favier sur l'emprise d'un entraîneur de ski sur sa recrue, mais aussi du Dernier Voyage, film de science-fiction français, genre peu représenté par le cinéma hexagonal, film de Romain Quirot qui nous plonge dans une ambiance de fin du monde.
7 jours, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. Nous sommes toujours sans nouvelles de Paul W.R.
Notre seul espoir face à la menace de la Lune Rouge, c'est volatiliser.
Aux infos, ils disent que vous êtes le seul qui pourrait nous sauver.
Et dans Genre Inclassable, la nouvelle folie de Quentin Dupieux, Mandibule, nous embarque avec Jean-Gab et Manu, hein, deux amis simples d'esprit qui trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d'une voiture et se mettent en tête de la dresser. C'est un film dont nous vous parlerons dans la prochaine émission.
Waouh, c'est une mouche ? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche.
Pourquoi on sert pas de la mouche, là, pour se faire de l'oseille ?
Bon, on l'adresse comme un singe.
On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous, on fait rien. On l'apprivoise.
Frédéric Breton, mais c'est fou de se voir.
Hein ? Mais c'est quoi ce plan, là ? D'où tu connais ces gonzesses, toi ?
Je connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Le truc, ok ou quoi ?
Je les ai invités pour combien de temps, les deux crados, là ?
Ce soir, j'ai préparé des paupiètes de dinde.
Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, ben, elle parle comme ça, quoi.
Bon appétit à tous.
Et pour finir, eh bien, on ne rouvre pas de salles de cinéma sans penser aux familles. C'est pourquoi il y a aussi un nombre conséquent de films d'animation qui vont tenter de se faire une place dans les salles. Alors, gros succès au Japon durant l'automne. Demon Slayer, Le Train de l'Infini débarque seulement maintenant en France. Les préventes se sont arrachées pour suivre les aventures du célèbre tueur de démons. Alors, c'est évident que c'est pas un film pour les familles. Là, c'est plutôt les adolescents et jeunes adultes qui sont visés.
Mourir dans son sommeil tout en étant en plein rêve, ce doit être un pur bonheur. Vous plongez profondément dans cette belle illusion.
Oh ! Coucou, comment tu vas, Tanjiro ? Oh !
Pour le reste, nous avons le très attendu Tom et Jerry, mêlant images 3D et prise de vue réelle, qui devrait éclipser Stardog et Turbo Cat, ainsi que Ongagou et Notre Rock. Voilà, c'est un autre film d'animation qui est attendu.
Après avoir été toute leur vie les plus célèbres ennemis du monde, Tom et Jerry sont sur le point de prendre un nouveau départ. Dans la grande ville.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les sorties du 19 mai prochain. À noter que c'est quand même difficile hein, parce qu'il y a une vingtaine de films qui sortent, de savoir eh bien, quels films seront destinés à quelle salle. Les exploitants ont peut-être tiré au sort, je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'était sans doute très compliqué. Sorti maintenant digital et en VOD depuis le 12 mai pour Mortal Kombat. Mortal Kombat, c'était un film avec Christophe Lambert, film de 95. Et bien voici un nouvel opus adapté du célèbre jeu des années 90. Et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Mais tâchez de faire vite.
Nos premières infos datent d'il y a 7 ans. Une mission au Brésil. On devait capturer un fugitif.
Sans le vouloir, Paul W.S. Anderson fait deux fois l'actualité ce mois-ci à cause des jeux vidéo sur grand écran. D'abord par Monster Hunter, donc sa version de la licence Capcom, mais aussi à cause de la nouvelle adaptation cinématographique de Mortal Kombat. Bien qu'il n'ait strictement rien à voir avec cette dernière, il n'empêche que tous ceux intéressés par cette sortie penseront bien fort à la version de 95. Car même si elle ne constitue pas la toute première adaptation de jeux vidéo en film, l'honneur entre guillemets revient à l'étrange, Super Mario Bros. En 93, elle est la première qui va être considérée, et à juste titre, comme réussie. Il faut dire qu'Anderson avait compris le potentiel d'origine, avait vu la manière de rendre ça portable sur grand écran, et surtout, ne prenez pas le média d'origine de haut, comme ça sera beaucoup trop souvent le cas dans l'industrie. C'est important pour la suite, vous verrez. Il n'empêche que, tout aussi sympathique qu'elle puisse être, cette première version avait un vrai défaut. C'était celui de s'éloigner d'un élément important du jeu, sa violence délirante. Car l'intérêt de Mortal Kombat, outre d'affronter toute une série de personnages iconiques, c'était surtout l'occasion de les achever avec les célèbres Fatalities, soit des mises à mort ultra sanglantes et extrêmement inventives, et qui auront été la raison du succès jamais démenti de la saga. Plus qu'un simple plaisir viandard, cette violence était l'objet d'une subversion bien connue de tous les adolescents des années 90 qui durent lutter contre leurs parents dubitatifs et des politiciens qui pensaient que l'industrie du loisir était, avec le métal, la cause de tous les maux juvéniles de la société. L'adaptation d'Anderson, visant justement le public adolescent, ne pouvait se permettre d'être fidèle sur ce point, car le studio visait une classification tout public. Le réalisateur devra se contenter de suggérer au mieux la vigorosité des combats, et la formule sera payante avec un joli succès à la clé. 25 ans et une suite minable plus tard, James Wan, devenu entre-temps un producteur à succès après avoir explosé au box-office avec ses films d'horreur et ses blockbusters de qualité diverse, reprend les rênes de la saga avec la fameuse promesse de ramener le mortal dans Mortal Kombat. Alors, qu'en est-il ?
Toutes les cultures, dans toute l'histoire de l'humanité, évoquent un tournoi sans pareil. De grands champions. Cette marque, ce dragon, c'est une convocation à ce qu'il est de mise d'appeler le Mortal Kombat.
L'histoire est au fond exactement la même que celle du premier film. Le royaume Terre court un grave danger. S'il perd un tournoi de plus, son ennemi, l'Outre-Monde, l'envahira. Mais une ancienne prophétie annonce qu'un groupe de champions s'unira autour d'un descendant de Hanzo Hasashi, un guerrier assassiné par le vilain Sub-Zero, et qu'ensemble, ils pourront changer la donne. Et donc, à la manière des 12 salopards, une tripotée de personnes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres vont découvrir qu'ils ont été élus pour se battre, vont finir par unir ou non leurs forces et essayer ainsi de sauver le monde. Il y a quand même un immense problème. Le film s'appelle Mortal Kombat, parle d'un tournoi nommé le Mortal Kombat et ben, on n'a pas droit au Mortal Kombat car les méchants, soucieux de ne pas perdre le tournoi, décident d'attaquer les gentils avant le fameux tournoi qui n'aura donc jamais vraiment lieu. Bon ben en fait, on se demande comment cela a-t-il pu passer au stade de validation du scénario par la production, car même s'il y a des combats, ben, l'intrigue est rendue assez caduque. On peut dire ce qu'on veut du Paul Anderson, mais lui suivait au moins la ligne simple mais ô combien efficace d'une trame à la Opération Dragon, matinée d'une touche de fantastique bienvenue. Dans la version 2021, plutôt que de comprendre ce que le mot « adaptation » implique, on nous sert comme chez Marvel une origin story chiche, cherchant à flatter un fanservice embarrassant. L'humour très maltraité, alors attention à la pluie de références geek assez indigestes, montre les limites de son producteur. James Wan a eu beau travailler pour le DC Cinematic Universe avec la série d'Aquaman, il applique sans vergogne la formule Marvel où l'on dégrade régulièrement des figures mythologiques, par exemple comme Thor, le dieu du tonnerre quand même, qui se retrouve à manger dans un fast-food. Je dis ça parce que dans Mortal Kombat, on fait une fatality avec un nain de jardin, on se bat dans un mobilhome ou dans une cabane à outils. Donc voilà, on a connu quand même franchement plus iconique. Donc ce qui est franchement étonnant dans ce bilan, c'est qu'une génération qui a grandi devant Mortal Kombat, jeu et film, arrive à un moment où il est possible d'adapter correctement, donc comprendre avec la violence requise ses œuvres, et qu'on fait tout pour leur montrer qu'au fond, la violence cartoonesque qui constituait l'un des maillons identitaires de la saga n'était au final pas si nécessaire, du temps que l'équipe créative et artistique croyait un minimum au récit qui était mené. Et ça, ben on ne pourra jamais vraiment l'enlever Anderson. Faire rêver son spectateur et l'amener loin en le respectant, telle est et sera la seule règle immuable du divertissement honnête.
Thor ou fast-food, bah oui, il y a un moment, il avait de l'embonpoint. Je ne sais plus dans quel...
Dans le deuxième, je crois.
Ouais, je ne sais plus. Voilà, donc ça, c'était Mortal Kombat, donc disponible en VOD actuellement. Remake donc, d'une adaptation de jeu au cinéma. On va jouer justement à découvrir cinq extraits de films qui sont des adaptations de jeux.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, il y a du pas bon et souvent du pas bon dans ces adaptations. Voilà, un exemple.
Alors, tu jubiles.
Mes satellites montrent qu'il reste 4472 humains en vie à la surface de la Terre. Ils cesseront d'exister dans les prochaines 48 heures.
Bon, et là, tu veux quoi ? Que je te dise que tu as gagné ? Que tu as détruit l'humanité ?
Non, c'est tout le contraire. Je veux que tu m'en empêches. Derrière, attention.
C'est trouvé, Guillaume.
C'est Resident Evil, bah de Paul W.S. Anderson,
ton
le fameux,
ton chouchou. film sorti en 2016, sixième et dernier volet de la saga Resident Evil, adapté des jeux vidéo édités par le japonais Capcom. Alice Mila Jovovich, seule survivante de la bataille de Washington contre les zombies, doit retourner à l'endroit où le cauchemar a débuté, le Hive à Raccoon City. Et c'est là qu'Umbrella Corporation a regroupé ses forces pour mener un assaut final contre les survivants de l'apocalypse. Seulement 322 000 entrées en France, ça n'a pas très bien marché. Le premier film de la saga date de 2002, c'était le sixième celui-ci, et un nouvel opus qui sera un reboot dans une veine terrifiante devrait sortir prochainement. Je crois qu'il a été retardé par la crise sanitaire. Deuxième extrait de ce blind test, il faut donc découvrir un film qui est une adaptation d'un jeu vidéo.
Navré, Cal, ce n'est pas ma façon de faire d'ordinaire.
Alors ne le faites pas. Qu'est-ce que vous me voulez?
Votre passé. Écoutez-moi attentivement, Cal. Vous allez bientôt entrer dans l'animus. Ce que vous allez ressentir, entendre et voir sont les souvenirs d'un individu mort il y a 5 siècles.
Attendez une minute.
Synchronisation réussie.
Enclenchez la régression.
Trouvé. Il y avait un gros indice.
Ouais, c'est l'Animus. C'est le seul truc qui m'a fait reconnaître. Hein, oui. C'est Assassin's Creed.
Oui, réalisé par Justin Kurzel, sorti en 2016, interprété par Michael Fassbender, qu'on entendait en mauvaise posture. Il y a aussi Marion Cotillard et Jeremy Irons. Grâce à une technologie révolutionnaire, Callum Lynch revit des aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du 15e siècle. Il découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les Assassins. Et dans le temps présent, il va devoir affronter l'ordre des Templiers. 1,8 million d'entrées en France. À noter que c'est le premier long métrage produit par la société Ubisoft Motion Picture. Bon, Ubisoft qui évidemment édite le jeu Assassin's Creed. Et c'est le seul film pour l'instant de Ubisoft Motion Picture. Il semblerait que d'autres arrivent dans peu de temps. Allez, troisième extrait, donc trouver une adaptation d'un jeu vidéo à l'écran.
Il y a personne d'autre qui comprend ce qu'il dit.
C'est une première pour moi aussi.
Il dit des mots.
J'essaye souvent, tout ce qu'ils entendent, c'est pika pika. Ils me flattent ou m'embrassent, ils me mettent au doigt quelque part.
Personne.
C'est vraiment dégueu.
Il y a personne d'autre qui l'entend. Est-ce que vous l'entendez parler? Est-ce que vous l'entendez dire des mots?
C'est pas compliqué, petit. Tu es le seul qui comprend ce que je dis. C'est le destin.
C'est pas le destin.
Alors pourquoi t'étais dans l'appartement?
C'est mon père qui habite là. C'est pour ça que j'y étais. Et toi, pourquoi t'étais là?
Tu es le fils de Harry?
Trouvé, Manu. Tu l'avais chroniqué, je crois.
Oui, je crois. Pokémon Pikachu Détective.
Oui. Oui, enfin, peu importe. C'est plus l'ordre, en fait. En tout cas, Détective Pikachu. Réalisé par Rob Letterman, sorti en 2019. Adaptation du jeu vidéo Détective Pikachu, qui lui date de 2016. Et c'est dérivé, évidemment, de l'univers Pokémon. On suit les aventures d'un jeune étudiant qui part à la recherche de son père disparu. Et dans un monde où les Pokémon vivent en harmonie avec les humains, eh bien, il est accompagné par un Pikachu qu'il est le seul à comprendre. Un budget de 150 millions de dollars pour une animation plutôt solide et puis un film plutôt bien mené, je dirais, parmi les adaptations de jeux vidéo à l'écran. Et c'est 1,6 million d'entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test.
Je siège ici, juste à la droite de Dieu, ou presque. En fait, je siège aujourd'hui à l'endroit où votre père siégeait.
Vous mentez?
Non. Il a été mon parrain lors de mon entrée dans l'ordre. Pour moi, ce fut un honneur.
Je n'en crois pas un mot. Mon père n'était pas un Illuminati, il me l'aurait dit.
C'était un homme de secret.
Pas pour moi.
Je suis très étonné que vous n'ayez pas trouvé, mais pourquoi pas. Alors, c'est un jeu vidéo célèbre qui a plusieurs opus. Et là, il y a eu 2 films. C'est un film de 2001, ça c'est le premier opus, premier volet de ce film, ce diptyque. À noter que c'est une actrice qui a été prise...
Tomb Raider.
Oui, voilà, qui a été pris.
Tomb Raider, c'est Angelina Jolie, voilà.
Pour sa plastique.
De, alors je ne sais plus celle-ci, c'est celui de Jean Debon ou...
Ah ouais, non, c'est Simon Windsor.
Simon West.
Simon West, voilà. Donc je reprends tout. Lara Croft, Tomb Raider de Simon West, sorti donc en 2001, adaptation donc de la série de jeux vidéo Tomb Raider. C'est le premier volet du diptyque qui met en vedette donc Angelina Jolie dans le rôle de l'archéologue et aventurière Lara Croft. Elle hérite d'une mystérieuse horloge de son père et celle-ci pourrait être l'horloge recherchée par une organisation secrète, les Illuminati, dont on parle dans cet extrait. Et cette horloge contiendrait un artefact qui aurait le fabuleux pouvoir de contrôler le temps et l'espace. Voilà le programme. Il y a eu une suite, donc Lara Croft Tomb Raider, le berceau de la vie, qui a été réalisé par Yann de Bont et qui est sorti en 2003.
Et puis un remake, enfin une nouvelle adaptation avec l'actrice Alicia Vikander.
Ah oui.
Ouais. Les trois sont très mauvais.
À noter que John Voight, hein, qui joue le père de Lara Croft dans le film, eh bien, c'est réellement le père d'Angelina Jolie. Voilà, c'était ma petite anecdote autour du film. Sinon, 2,5 millions d'entrées en France pour ce film. Donc, autant dire que ça a plutôt bien fonctionné. Dernier extrait de ce blind test. Il faut découvrir donc une adaptation de jeu vidéo à l'écran.
Si c'est pas malheureux, mais regarde-le, ton empire, il empire de jour en jour.
Ça devient écœurant.
Quand je pense aux humains de l'autre côté, ils ont des richesses à ne plus savoir qu'en faire. Y'a qu'à se baisser pour les ramasser.
Je sais.
Imagine, une source inépuisable de nourriture, de l'air pur à gogo, de l'eau propre. Mmh. Et nous, dans quoi on patauge? Ça. La pourriture, les germes et autres affections. 65 millions d'années que nous sommes contraints à cet exil, après le passage de cette météorite. Pendant que ces maudits mammifères se la coulent tous dans l'autre dimension. Mais... Ah, plus pour très longtemps.
Trouvé, Guillaume.
Mais c'est le très bizarre et même peut-être fascinant, même Super Mario Bros.
Ah, c'est une pièce de musée. Super Mario Bros, réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jenkel, sorti donc en 93. Alors, c'est le premier long métrage en prise de vue réelle basé sur un jeu vidéo. Ça a ouvert la brèche. Voilà, c'est une adaptation libre de la série de jeux vidéo Super Mario. C'est sans doute la licence la plus célèbre de l'univers du jeu vidéo. Était-il nécessaire d'en faire une adaptation? On ne sait pas. En tout cas, il y a Bob Hoskins et Dennis Hopper qu'on entend ici dans cet extrait, qui joue le méchant, qui est en roue libre. Hein. Et le film raconte l'histoire d'un peuple de dinosaures vivant pacifiquement dans un monde parallèle, menacé par un tyran qui, pour arriver à ses fins, eh bien, kidnappe Daisy, jeune et belle archéologue. Et les frères Mario, qui sont plombiers à Brooklyn, se retrouvent transportés dans ce monde souterrain et vont tout faire pour sauver la jeune fille. À noter qu'il y a eu un peu moins de 400 000 entrées en France. Voilà. Donc finalement, c'est peu.
Je l'ai vu au cinéma,
eh bien,
en 93,
fais partie
à la fête du cinéma à l'époque.
Je pense que ça a dû booster les entrées.
This is Cinerama. Cinerama.
On va maintenant terminer cette émission avec eh bien, un retour au cinéma commercial des années 90. C'est ce que j'ai lu, sans aucun remords. Tu vas nous en dire plus.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait, judicieux, simple et logique.
Voilà ce qu'on sait. L'adjudant-chef Kelly est le troisième membre à avoir été attaqué. Les trois tireurs sont morts. Sa femme a été également tuée.
Ils n'ont plus qu'à espérer qu'ils ne survivent pas.
Pourquoi ?
C'est de loin l'homme le plus dangereux et le plus efficace qu'on ait sur le terrain.
Stefano Sollima a un fils de Sergio Sollima, figure importante du cinéma populaire italien des années 60-70, auteur de petites merveilles, hein, comme Le Dernier Face-à-Face ou La Poursuite Implacable, poursuit une œuvre placée sous le signe du polar sombre et désenchanté, décrivant un monde gangréné par la corruption, dans lequel évoluent des personnages complexes. Du moins, c'était le cas frappant pour ses deux premiers longs-métrages italiens, Acab et surtout l'extraordinaire Suburra. Alors, portrait sans concession d'une sphère politique corrompue jusqu'au cou, étroitement liée au crime organisé. Alors, il est aussi le réalisateur attitré des séries TV Gomorra et Romanzo Criminal. Alors, pour son talent évident de formaliste, hein, parfois proche d'un Michael Mann ou de Catherine Bigelow, Sollima attire très vite l'attention des producteurs américains, lui confiant la mise en chantier d'un Sicario 2, une commande dont il s'en tire avec les honneurs, moi dépassant même le premier par la mise en scène, pas par le scénario, qui était un peu faiblard. Alors, mais une inquiétude se fait quand même ressentir, celle de voir un grand espoir du cinéma avalé par la machine hollywoodienne. Ce que confirme partiellement, sans aucun remords, adaptation d'un roman de Tom Clancy, auteur de À la poursuite d'Octobre rouge. Le scénario de Taylor Sheridan, qui apparemment s'éloigne de la matière originelle, ne brille pas par son originalité, laissant une impression d'embraser un peu tous les clichés du thriller géopolitique contemporain. John Kelly, personnage récurrent d'ailleurs de l'univers de Clancy, mais je ne savais pas parce que j'ai jamais lu de bouquin de cet auteur, auteur de nombreux best-sellers. Alors donc John Kelly est un membre des SEAL, les forces spéciales de la marine américaine. Après une mission en partie foirée, il revient dans son pays envisageant de prendre une retraite anticipée en acceptant un poste de bureau pour rester auprès de sa femme enceinte. Mais des soldats russes s'introduisent chez lui une nuit et tuent sa femme. Il parvient à éliminer une partie des criminels, laissant échapper un seul homme à l'identité secrète. Il cherche alors à obtenir justice, s'adjoignant l'aide d'une consoeur, Karen Green, et d'un mystérieux agent de l'ombre de la CIA, Robert Reiter. Alors il va découvrir qu'il est en réalité le jouet d'un vaste complot international remettant en cause l'équilibre du monde.
Il y a une partie de moi que rien n'apaisera. Une partie de moi que rien ni personne n'arrêtera. Aucun remords. Ça ne vous a pas effleuré que John Kelly ait pu faire quelque chose dont on n'est pas capable.
Alors, réitérant le thème de l'équilibre fragile entre les deux blocs Est-Ouest, Sans aucun remords n'apporte aucune singularité à un genre balisé qui connut un regain d'intérêt après le 11 septembre, sauf que les enjeux y étaient déplacés, la Russie n'étant plus l'ennemi numéro un. Ce retour vers un affrontement possible post-guerre froide, un peu anachronique d'ailleurs, ne parvient pas à captiver totalement à cause des grosses ficelles d'un scénario prévisible troué d'invraisemblance. Alors, l'uniformisation des personnages stéréotypés n'arrange pas l'affaire. Le héros John Kelly n'a aucune épaisseur, peu aidé, il est vrai, par la prestation un peu monolithique de Michael B. Jordan. Il incarne le héros interchangeable de bon nombre de films de série. Il est donc difficile de s'intéresser à son sort. En face n'est guère mieux, à moins de n'avoir jamais vu de thriller politique de sa vie. Impossible de ne pas découvrir l'identité du traître dès sa première apparition. De plus, le film rejoue la partition de l'ennemi de l'intérieur, ce qui ne surprendra finalement personne. Mais malgré tous ces défauts d'écriture, essentiellement, Sans aucun remords parvient à captiver, ne serait-ce que par l'impressionnante mise en scène de Sollima, qui éclate lors des scènes d'action filmées avec une maestra que l'on ne soupçonnait plus dans le cinéma américain contemporain. Alors Sollima fait preuve d'un sens de l'espace et du temps, rendant lisible la moindre fusillade, immerge le spectateur dans un monde chaotique sans jamais le perdre. La longue séquence d'intervention en Russie pour capturer le meurtrier recherché, alors elle fascine par la qualité des plans dans la durée, la mobilité d'une caméra passant d'un personnage à l'autre sans qu'on soit vraiment perdu, la photographie crépusculaire et puis un grand sens du découpage. Alors cette brillante leçon de mise en scène, hélas au service, je l'ai déjà dit, mais d'une histoire aux visées très convenues, fait d'autant plus qu'on ne confie pas à Sollima de projets plus ambitieux. Mais avouons-le tel quel, Sans aucun remords demeure un divertissement de bonne tenue, très loin, je dirais, de la forme un peu télévisuelle que nous abreuve la majorité des blockbusters contemporains.
Donne-moi un nom. T'es pas censé avoir survécu. Donne-moi un nom.
Et ce film de Stefano Sollima est disponible sur Prime.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
Messieurs, vous avez déjà un sommaire pour la semaine prochaine.
Oui, le dernier film de Quentin Dupieux, Mandibule.
Qui sortira au cinéma. Et toi, c'est une sortie Netflix.
C'est ça, moi c'est Oxygène de Jean-Michel Jarre, ou plutôt d'Alexandre Aja.
Et on espère voir Dernier Voyage, un film de science-fiction français.